France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le mardi 7 janvier, Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, Charlie, 5 ans après l'attentat contre le journal satirique et la mort de 12 personnes, un numéro spécial du journal est en kiosque aujourd'hui, journée spéciale également sur France Inter, avec des témoignages toutes les heures et en direct, Léa, avec vous, à 7h50, votre invité.
Oui, comment survivre après ça, la femme du dessinateur T-News raconte sa tristesse, le manque, la folie administrative et les déchirements de la famille Charlie dans un récit coup de poing. Si tu meurs, je te tue. Chloé Verlac sera avec nous à 7h50.
A tout à l'heure, Léa. Les autres titres, Agnès.
La reprise des négociations au 34e jour de grève contre la réforme des retraites, avec plusieurs bocages de dépôts de bus ce matin. La France qui tente de faire entendre sa voix en appelant l'Iran à ne pas lancer de représailles contre les États-Unis. Les feux en Australie et la colère des habitants qui dénoncent l'incurie du gouvernement. Enfin, les sorties ciné demain avec L'Adieu, un film sur la fin de vie, délicat et plein d'humour.
Et à 8h20, le grand entretien de la matinale, c'est aujourd'hui avec le secrétaire général de la CGT, j'ai nommé Philippe Martinez. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
France Inter.
Il est 11h ce 7 janvier 2015, la conférence de rédaction de Charlie Hebdo s'achève sur les tables des dessins, un cake et le dernier numéro du journal. Soudain, deux hommes surgissent, armés et cagoulés, les frères Kouachi, qui tirent à la Kalachnikov. Le massacre va durer 1 minute et 49 secondes. Charb, Cabu, Bernard Maris, Honoré, T-News, 12 personnes sont tuées. Le dessinateur Riss était là aussi, il n'a rien oublié de ces tragiques secondes.
Chaque seconde, vous vous dites que ça va être la dernière. Vous prenez conscience que vous êtes arrivé au moment ultime de votre vie. C'est le moment que tout le monde, je vais pas dire craint ou imagine dans sa vie. Comment est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais mourir de maladie? Est-ce que je vais mourir de ceci? Bon, ben là, j'avais la réponse. Ben voilà, ça va se terminer ce matin, dans ce journal. Ma vie va s'arrêter ce matin. Et donc, j'attendais le moment. On est transformé en une espèce de petit animal. Voilà, on se protège, on se met dans un creux, on essaye de disparaître. J'ai fait du mieux que j'ai pu pour pas poser un regard sur ce qu'il y avait autour de moi parce que j'avais compris. J'avais pas, le regard ne m'aurait rien apporté de plus. Puis je voulais pas les voir comme ça. La dernière fois que je les ai vus, bah, ils étaient debout, ils étaient vivants. Et puis voilà. C'était pas à moi de les voir comme ça. Pour moi, ils sont toujours un peu vivants. Je les entends parler. Vous êtes vivant et vous êtes en face de gens qui ne le sont plus et vous êtes presque gêné d'être encore vivant vis-à-vis d'eux. C'est des sentiments qui accompagneront toute la vie.
Un témoignage de Riss au micro d'Augustin Trapenard en octobre dernier à l'occasion de la sortie de son livre « 1 minute et 49 secondes ». Quelques jours plus tard, 4 millions de personnes défilaient dans la rue pour défendre la liberté d'expression. 5 ans après, que reste-t-il de l'esprit « Je suis Charlie » Le New York Times vient de renoncer à publier des dessins de presse après une énième polémique. Aucun renoncement du côté de la rédaction de Charlie Hebdo. Le journal satirique sort un numéro spécial et s'en prend au nouveau gourou de la pensée formatée, Jacqueline Pétrose.
C'est un bras d'honneur au censeur et au dictateur dans l'âme. En une, Coco donne le ton, un dessinateur à la langue et au bras écrasé par un smartphone. Ce numéro spécial est explicite, l'esprit Charlie est toujours vivant lorsqu'il s'agit de défendre la liberté d'expression. Chaque article est écrit comme un nouveau moment de résistance. Les réseaux sociaux et les associations bien-pensantes en prennent pour leur grade. Riss s'insurge contre ceux et celles qui se cachent derrière leur clavier. Une époque, dit le directeur de la rédaction, finalement exaltante. Parce que, je cite, « cela nous donne une formidable occasion de les caricaturer, les ridiculiser et les combattre ». Mais il y a aussi les souvenirs de ceux qui sont partis, avec de très beaux textes des proches d'Honoré, de Charb, de Volinsky ou de Mustapha Ourad. Mustapha à qui, dans un texte choisi par sa femme et ses enfants, Bernard Maris rendait hommage pour dire qu'il connaissait des Français heureux et qu'il voulait parler pour les désespérés si drôles. Enfin, dans ce qui pourrait résumer ce numéro spécial, Véronique Cabu remercie l'équipe actuelle de continuer chaque semaine ce sport de combat pour la liberté d'expression.
Et je vous rappelle qu'à 8h10, la femme du dessinateur T-News sera l'invitée de Léa Salamé. Et puis il y a le procès des attaques de Charlie, mais aussi de Montrouge et de l'Hypercacher, qui va s'ouvrir en mai prochain. Tous les détails sont à retrouver sur franceinter.fr.
Il est 7h05, Agnès, la réforme des retraites, 34e jour de grève et reprise des négociations.
Et l'atmosphère semble avoir changé. Le Premier ministre a appelé hier soir chacun à faire un pas vers l'autre. Propos rapportés par les dirigeants de La République En Marche qu'Édouard Philippe a rencontrés. Les partenaires sociaux et les ministres concernés se retrouvent donc tout à l'heure à 9h30 au ministère du Travail. Et la rencontre, Yael Gauz, a été préparée dans les moindres détails.
Syndicats et patronats réunis autour du Premier ministre dans la salle des accords de Grenelle, là même où la crise de mai 68 avait été réglée. Difficile de faire plus symbolique. Et quoi de plus consensuel que de parler travail plutôt que retraite pour tenter de réembarquer tout le monde dans la négociation. À chaque ministre son chantier. À Muriel Pénicaud, la pénibilité et les fins de carrière. Sous-traité avec Agnès Buzyn pour l'hôpital et Olivier Dussopt pour les autres fonctions publiques. À Laurent Pietraszewski, le volet retraite minimum. Mais le sujet, celui qui reste directement piloté par Matignon, c'est bien l'équilibre financier du nouveau système. D'ailleurs, dans la majorité, on se fait peu d'illusions sur l'aspect pénibilité. La clé, c'est l'âge pivot, estime un haut responsable, convaincu que les choses sont en train de bouger. Mais à quel rythme? Réembarquer les syndicats réformistes, d'accord, mais quid des autres? Avoir la CFDT dans son sac à dos, estime un ministre, c'est l'assurance de casser le front syndical et d'affaiblir encore le mouvement social. Preuve que tout se joue sur ce terrain, le pré-projet de loi transmis au Conseil d'État ne contient pas d'article relatif à cet âge pivot si polémique.
La nouveauté ce mardi, c'est l'appel de la CGT au blocage de toutes les raffineries jusqu'à vendredi. Déblocage, il y en a déjà ce matin autour de 3 dépôts de bus à Aubervilliers, Asnières et Lagny en région parisienne. Des perturbations également côté tramway. À Rouen, aucun tramway également. Les grévistes bloquent un dépôt. Les prévisions à la SNCF, 3 TGV sur 4, 6 TER sur 10, 2 intercités sur 5 et 1 transilien sur 2. À la RATP, la situation est identique à celle d'hier. Gabriel Matzneff ne touchera bientôt plus l'allocation annuelle accordée par le Centre National du Livre à certains auteurs âgés en situation difficile. Le ministre de la Culture a estimé hier qu'elle n'était plus justifiée. Et puis de nouvelles accusations aux États-Unis contre Harvey Weinstein. Le jour même de l'ouverture de son procès à New York, l'ex-producteur a été inculpé à Los Angeles après 2 nouvelles plaintes. La première pour un viol qui se serait déroulé dans une chambre d'hôtel en février 2013. L'autre pour agression sexuelle.
Il est 7h07. Les soldats américains sont-ils, Agnès, sur le point de quitter l'Irak?
Une lettre émanant du commandement militaire américain à Bagdad a semé la confusion hier avant que Washington ne démente tout projet de retrait immédiat. Il s'agissait d'un brouillon envoyé par erreur, a expliqué le chef d'état-major américain, signe en tout cas de l'extrême tension qui règne depuis la mort du général Soleimani. Une tension que les Européens tentent en vain de faire retomber. L'Iran doit renoncer à des représailles contre les États-Unis, a déclaré hier soir Jean-Yves Le Drian. Paris, qui a tenté de préserver l'accord sur le nucléaire, se retrouve dans l'embarras, Bertrand Galichet.
La France se garde bien de qualifier l'assassinat de Qassem Soleimani, mais affiche sa solidarité avec Donald Trump et ses alliés. D'abord parce qu'elle peut difficilement condamner l'élimination d'un général iranien lié en sous-main à la répression de la révolte populaire en Irak et à l'expansionnisme iranien dans la région. Et surtout, Paris n'envisage pas une confrontation avec Washington sur ce dossier. Même si les États-Unis ont fait capoter les tentatives acharnées de la France destinées à sauver l'accord nucléaire avec l'Iran. Car la frappe américaine qui a éliminé vendredi le général Soleimani pourrait porter un coup de grâce à ses efforts. Du sommet du G7 fin août à Biarritz jusqu'à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier, Emmanuel Macron a multiplié en vain les tentatives de médiation. En attendant vendredi à Bruxelles une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne consacrée à l'Iran et dont beaucoup d'experts n'attendent pas grand-chose, l'Élysée se contente de mettre en garde l'Iran contre une nouvelle escalade militaire, sans illusion sur le rôle des Européens dans ce face-à-face entre Donald Trump et les Molla.
Direction l'Australie, à présent où quelques gouttes de pluie sont tombées hier, insuffisantes pour éteindre les 130 incendies encore actifs. Les habitants sont de plus en plus en colère contre le gouvernement, accusé de fermer les yeux face au réchauffement climatique. Il y a quelques jours, le Premier ministre a ainsi été fraîchement accueilli dans le village sinistré de Cobargo, où s'est rendu l'envoyé spécial de France Inter, Gaëlle Joly.
C'est la vie, there we go.
Jenny garde le moral, pourtant elle a tout perdu dans l'incendie. Les flammes ont englouti sa maison. Alors, quand le Premier ministre Scott Morrison est venu la saluer, elle lui a tourné le dos.
Non, je ne veux pas voir le Premier ministre parce qu'il ne sait pas comment nous aider. On a besoin de beaucoup plus de fonds pour soutenir les services de secours, beaucoup plus. En Australie, on devrait avoir plus d'avions et d'hélicoptères et il faudrait donner plus d'argent aux volontaires.
Catherine, elle a traversé l'enfer des flammes en voiture, laissant derrière elle toute sa vie. Il faut, dit-elle, une prise de conscience urgente sur la politique climatique.
We have been totally neglected.
On a complètement négligé les changements climatiques.
Individually, we do try, but
Individuellement, on essaye, mais ce n'est pas assez. Ça devrait être l'affaire de tout un pays. On a été sous la menace d'un tel incendie depuis février dernier. Dans des conditions de sécheresse extrême, prêts à exploser, et ça a explosé.
Et chaque jour, des éditos en ce sens viennent nourrir les colonnes des journaux australiens. Scott Morrison a fait savoir qu'il ne voulait pas en entendre parler. À Cobargo, Arthur Gerbogel, Jolie France Inter.
La colère en France des malades de la thyroïde sous l'évothyrox. En mars dernier, 4000 plaignants ont été déboutés en première instance. Ils poursuivaient le laboratoire Merck pour défaut d'information après un changement de formule mal supporté par certains malades. Les patients espèrent évidemment, Véronique Julia, être mieux entendus cet après-midi devant la cour d'appel de Lyon.
Défaut d'information et préjudice moral, préjudice d'angoisse. Voilà ce que reprochent les plaignants au laboratoire Merck. Le tribunal a beau avoir retenu en première instance qu'il n'y avait pas eu de manquement dans l'obligation d'informer, les patients soutiennent que l'information n'est pas arrivée jusqu'à eux. Il y a eu des courriers, certes, envoyés aux professionnels de santé, mais une diffusion bien trop discrète et surtout qui ne prévenait pas que le changement de formule pouvait être mal supporté. Tout cela a généré beaucoup de souffrance pour les patients, explique Beate Barthès. Elle préside l'association Vivre sans thyroïde.
Beaucoup de patients ont eu des soucis parfois assez graves, des symptômes vraiment invalidants, des crampes, des palpitations, des insomnies, des vertiges. Ils n'avaient aucune idée que ça pouvait venir de là. Et du coup, ils cherchaient toutes sortes d'autres maladies et ils ont beaucoup consulté. Il y en a qui ont vraiment cru qu'ils avaient un cancer digestif ou quelque chose comme ça. Oui. Donc c'est vraiment un préjudice moral assez conséquent.
Une angoisse qui revient aujourd'hui avec force, car bientôt l'ancienne formule du lévothyrox, qui avait été remise à la disposition des patients à l'automne 2017 pour les soulager, sera en rupture de stock. Merck va cesser d'en produire. Que vont devenir les quelques 120 000 patients français qui dépendent de cette ancienne formule? Si le produit disparaît, on peut craindre une nouvelle crise d'effets indésirables, préviennent les associations. Elles essayent aujourd'hui de convaincre les autorités sanitaires d'insister auprès de Merck pour maintenir cette production.
France Inter, il est 7h12 et parmi les films à l'affiche à partir de demain, l'adieu de la réalisatrice sino-américaine Lulu Wang.
Un film inspiré de la propre expérience de cette réalisatrice qui pose une question universelle. Faut-il dire à un malade qu'il est condamné? Ici, c'est la grand-mère, Nai Nai, qui vit en Chine, qui va mourir et qui ne le sait pas. Un film étonnamment solaire et non dénué d'humour, Corinne Pellissier.
Dans la famille de Billy, tout le monde ment, tout le temps, par facilité, par amour ou pour se protéger. Aussi qu'on survient l'annonce du cancer, désormais incurable, de la grand-mère, c'est le branle-bas de combat pour trouver l'alibi parfait et réunir auprès d'elle toute une dynastie répartie depuis 25 ans entre la Chine et les États-Unis. Deux pays, deux traditions et surtout deux façons d'accompagner la fin de vie qui donneront tout son sel à cette histoire, inspirée du parcours de la réalisatrice qui en profite ici pour questionner sa double culture sino-américaine. Le rapport à la maladie, le poids des traditions, comment choisir d'avouer ou non à Nai Nai qu'elle est en phase terminale d'un cancer. Quand en Orient, l'individu fait partie d'un tout, aux États-Unis, caché, une telle information serait illégale. Une harmonie difficile à trouver entre de vraies retrouvailles et un mensonge pieux. Un film plein de vitalité qui raconte aussi en creux l'évolution de la Chine contemporaine.
L'adieu donc qui sort demain sur les écrans.
Merci Agnès Soubiran.